Ne ratez plus rien.
Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.
Les loyers, évidemment, le 1er juillet s'approche, donc il est toujours question de ces familles qui n'ont pas accès à des loyers. Mais cette année aussi, ce qui a retenu l'attention avec la fin de la pandémie, c'est l'inflation galopante qui touche aussi le prix des loyers. Et on met souvent les propriétaires dans le mauvais rôle. Et les propriétaires, souvent, c'est des gens comme vous et moi aussi. Alors aujourd'hui, j'ai voulu avoir le point de vue des propriétaires sur la crise des logements présentement. C'est les causes, ce qu'on peut peut-être faire. Et je voulais en parler avec Benoît Sainte-Marie, qui est directeur général de la Corpic. Monsieur Sainte-Marie, bonjour.
Bonjour, Monsieur Derry.
Donc, il y a une étude aujourd'hui qui est sortie du RACLAC qui parle de l'augmentation des loyers qui serait sous-estimée au Québec, puis qui fait montre d'un écart entre les loyers qui sont occupés, qui est autour d'à peu près 900 $ par mois au Québec, puis des loyers qui sont disponibles pour la location, pour ceux qui veulent, qui cherchent un logement, qui sera autour de 1300 $. Vous expliquez ça comment, vous?
Ouais, d'abord, je pense qu'il y a une source importante qui produit des données chaque année, et c'est la SCHL. Et je pense que c'est important...
La Société canadienne d'hypothèque et de logement, c'est ça?
Et de logement, qui est un bras fédéral, en fait, qui a pour mission de documenter le marché, et qu'ils font avec une précision, je dirais, d'horloge suisse là, depuis une vingtaine d'années, et que personne ne remet en question. Tous les économistes s'entendent sur cette source-là. Et là, le RECLAC arrive avec... sort de son chapeau quelque chose qui correspond à ce qu'il revendique, hein. C'est des gens qui voudraient contrôler les loyers. Et là, il arrive avec des trucs qui sortent de publication sur Kijiji, mais depuis quand on mesure l'économie du Québec en regardant les petites annonces? C'est donc les différences entre les logements inoccupés et occupés est mesurée par la SCHL à chaque année. Et ce qu'on a remarqué dans la dernière année, c'est effectivement des différences entre ce qui est affiché, là, ce qui est disponible sur le marché versus occupé. Dépendamment des régions, là, c'est entre 10% et dans certains cas, si je prends la banlieue de Montréal, où il y a eu une effervescence, c'est plus proche de 20%. On est très loin de ce que raconte là, le RECLAC.
Fait que ça veut dire quand même que, par exemple, à Montréal, pour un loyer, mettons un 4,5 là, qui serait autour de 900 $ par exemple, si on rajoute un 20%, ça c'est pour un loyer qui est occupé présentement, le locataire ne quitte pas. Un loyer qui serait libre lui pourrait être affiché peut-être autour de 1100 $ le plus ou moins, là, quelque chose comme 200 $ de plus.
Même pas, parce que sur l'île de Montréal, on parle de 9,6 de différence, donc...
OK, fait qu'autour de 1000 $, 100 $ de plus, puis bon, en région périphérique,
oui,
là, dans le 450.
C'est ça, un petit peu plus. Puis ça s'explique parce que dans la banlieue, là, on va dire couronne de Montréal, qu'on appelle la région métropolitaine, là, qui va inclure même plus loin que Laval, puis toute la rive sud, c'est là que c'est construit... le plus de logements, et on parle ici là de environ hors de Montréal, dans la région de Montréal, là, on parle de 21 000 nouveaux ménages qui sont arrivés du logement neuf. Et lui, il coûte en général, là, en moyenne à Montréal, dans la région de Montréal, 40% de plus qu'un logement, on va dire, traditionnel qui a été construit au cours des 100 dernières années. Donc, voyez-vous que c'est sûr que quand on amène des nouveaux logements neufs, ça a un impact sur ce qui est, disponible. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention quand on regarde les chiffres, à ne pas confondre un logement neuf avec un logement, on va dire, déjà construit. Parce que le logement neuf, très souvent, il arrive puis il est chauffé, très souvent. Il y a le Wi-Fi maintenant. Presque à 85% des nouveaux logements offrent le Wi-Fi, plus d'autres services. Et au centre-ville, maintenant, il y a une norme, puis c'est même la même chose. Ils ont tous une piscine, ou ils ont presque tous des stationnements d'inclus, parfois intérieurs. Donc, il faut quand même comprendre que tout ça crée de la valeur et amène des loyers, oui, à dire... ils sont 1400, 1500, 1600 même, parce que c'est presque impossible en passant de construire en bas de ces prix-là. Donc, c'est ce qui explique cette différence. Il faut presque s'en réjouir parce qu'on a besoin de logements. Il faut en construire. Il va falloir en construire encore plus. Hein. On a vu là justement la PCHQ qui est sortie, la SCHL, disant qu'au Québec, il va falloir qu'ils se construisent dans les prochaines années 650 000 habitations. Là. C'est tout un chantier, sans jeu de mots, qui nous attend. Et c'est sûr qu'il faut le faire, parce que là, dans beaucoup de régions, il y a un manque de logements, donc il faut construire des logements, pas juste du locatif, des maisons unifamiliales, du condo, mais le locatif particulièrement, parce que ça amène une flexibilité, le locatif. On peut ajuster un marché grâce au locatif.
Qu'est-ce qui explique que ça fait plusieurs années qu'à chaque fois qu'on arrive au 1er juillet, on ressort toujours le même disque sur la pénurie de logements? Qu'est-ce qui explique que le marché du logement soit si serré au Québec de façon constante, selon vous?
Il faut regarder les sources du problème. Et la principale raison, c'est qu'il n'y a pas assez d'intérêt pour maintenir un parc locatif. Donc, les rendements offerts aux propriétaires et aux constructeurs n'est pas assez élevé. Et ça fait en sorte que dans un marché comme l'île de Montréal, il s'est retiré au cours des 5 dernières années, là, on estime environ 15 000 logements. Alors, pendant qu'on revendique plus de logements,
il y a 15 000 logements qui étaient dans le marché qui sont sortis.
Retirés.
C'est quoi? C'est devenu des condos?
Sortis. En grande partie des condos, effectivement, mais d'autres aussi, des propriétaires qui ont tout simplement décidé d'arrêter de louer, voyant que ça valait pas les difficultés ou le trouble qui viennent avec. Donc, et ça, c'est à prendre au sérieux, parce que s'il y a un désintérêt et qu'on continue de réglementer comme ça a été le cas dans les dernières années, mais on va perdre des joueurs, faut pas perdre de joueurs.
Moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce que souvent, quand on parle de logement, on pense des gros propriétaires immobiliers qui ont des unités de, je sais pas moi, 40, 80, 100, puis qui ont plusieurs immeubles. Il y a aussi une autre réalité, des gens qui ont un duplex, un triplex, ou des petits immeubles à logement qui vont avoir 1, 2, 3, des fois 6 logements. Mm-hmm. Ça, c'est une partie importante du marché. Puis ce que vous dites, c'est que ça devient de moins intéressant pour eux. Pourquoi?
Ben justement, c'est parce que tous ceux qui ont des plex aujourd'hui, s'ils sont bons en mathématiques, ils vont se rendre compte que c'est beaucoup plus de l'épargne forcée hein, que de faire de l'argent entre guillemets avec ça, parce que premièrement, c'est vraiment sur une très longue détention qui va se dégager quelque chose. Et ça fait aujourd'hui, là, un propriétaire, là, c'est très, très difficile. On n'a pas de main-d'œuvre. Et mettons qu'il arrive un bris, on se revire de bord, il n'y a presque personne pour venir aider. Les propriétaires sont maintenant quasiment obligés de faire des réparations eux-mêmes. Même le beau-frère qu'on appelait dans le temps, il ne veut plus rien savoir. Voyez-vous ce que je veux dire? On est dans une situation très, très difficile, point de vue propriétaire. On n'en parle pas souvent dans les médias, mais c'est très grave en termes de situation, parce que on est pris dans un marché qui est pas facile. En passant, là, à Montréal, on est loin d'une crise du logement, très, très loin. Là, on est rendu au-delà de 4% de taux d'inoccupation. Il y a un marché qui commence à être en faveur des locataires. Vous allez voir, dans les prochaines années, les prix à Montréal devraient se stabiliser. Donc, et tout ça fait en sorte que nous, on est confrontés comme propriétaires à des coûts qui augmentent très rapidement. La feuille de plywood, là, qui coûtait 19, 20, 23 $, a quand même monté à 90 pendant la pandémie. Gros cadeau, elle vient baisser peut-être à 75 $, mais c'est quand même 5 fois plus, 3 fois plus qu'avant. Donc, on est pris avec des coûts qui sont hors de notre contrôle. Et on essaye effectivement de respecter des hausses relativement petites, parce qu'on parle de 3,4% au Québec de hausse de loyer. Là, c'est pas la fin du monde.
Bon, justement, quand vous faites des rénovations, si vous avez, ça, mettons, vous décidez de faire, je sais pas, changer les fenêtres là, sur un immeuble, vous pouvez les récupérer en combien de temps?
Bon, on a établi un record malheureux, parce que l'an dernier, c'est une cinquantaine d'années. Ce qui dépasse en lui.
OK, je veux que ça soit bien clair et compris, parce que c'est quand même un petit peu surréel, là. C'est-à-dire que si vous mettez 25 000 dans des rénovations, la régie du logement va vous demander de répartir ça, va autoriser une augmentation du loyer qui va équivaloir à une récupération sur 50 ans. C'est ça que vous êtes en train de dire?
Ça n'a pas de bon sens. Ça a vraiment, mais c'est ça, effectivement. Et ça fait en sorte que ça dépasse la vie utile de ce qu'on remplace. Si je prends l'exemple d'un toit qui dure 15-20 ans, et lui, on va, on, on va avoir déjà changé de toit au bout de 20 ans, alors que l'autre n'a même pas encore été récupéré. Ça n'a aucun bon sens. Fait que ça, c'est une situation qui doit changer pour que, un, il y ait de l'intérêt, mais deux, que le parc ait un niveau d'entretien qui fait en sorte qu'il maintient une qualité. Parce que la difficulté, c'est que s'il n'y a pas le niveau d'entretien nécessaire, puis il y a dépérissement, puis à un moment donné, l'immeuble arrive dans un point de non-retour, et c'est là qu'on voit là, des mauvaises manchettes de journaux avec du monde qui décide de tout transformer, puisqu'ils n'ont plus le choix. L'immeuble, souvent, est rendu à la fin, on pourrait dire, de son cycle. Donc, il faut être capable de maintenir l'intérêt et le niveau de rénovation pour offrir, franchement, un marché encore plus compétitif qu'il l'est maintenant.
Je comprends présentement que si j'ai un 300-400 000 à investir, les logements locatifs, c'est peut-être pas le retour sur l'investissement idéal, puis ça cause un problème d'offre à ce moment-là. Bon, maintenant, ceci dit, mettons qu'on peut augmenter les loyers, qu'on dit là, à go, on augmente les loyers. Il y a l'autre volet du problème, c'est des familles qui ont de la misère à se loger. On les aide comment, selon vous, la meilleure façon?
Ouais, eh ben c'est pas facile pour une famille se loger, ça l'a jamais été vraiment facile, mais ces gens-là en fait doivent faire des choix en termes de localisation là, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le fond si c'est à faible revenu? Les gens sont pas très informés là-dessus, mais le gouvernement dans les deux derniers budgets est allé à coup de centaines de millions là pour donner des suppléments au loyer pour justement viser les familles. Puis c'est du 100-150 $ par mois d'aide, ce qui est pas rien là, pour aider des gens à se loger. Donc la question supplément au loyer, puis ça c'est, je dirais, beaucoup moins compliqué à obtenir qu'un logement social. Donc ça, il s'agit juste de bien se renseigner, faire les démarches là, soit avec l'office municipal ou directement avec la Société d'habitation du Québec. Et en passant, ils ont augmenté le nombre de personnes pouvant l'obtenir et le niveau d'aide, là, où est-ce qu'avant, je pense qu'on parlait plus de 75 $, puis on est rendu pas loin de 150, ça a presque doublé. Donc, il y a eu un effort de la part du gouvernement pour aider, pas juste des familles, ça vise aussi des personnes seules, monoparentales, ce genre de situation-là. Et ça aide effectivement beaucoup. Puis en général, les propriétaires sont très rassurés là, quand ils voient ce genre d'aide-là.
OK. Fait que si je comprends bien, la solution, c'est peut-être pas nécessairement de contraindre les loyers selon vous, mais plus de donner de l'aide à ceux qui en ont besoin. Benoît Sainte-Marie, directeur général de la Corpic, merci beaucoup de nous avoir accordé ça. Puis gageons qu'avec le 1er juillet qui s'en vient, on va encore en parler bientôt.
Ben oui, merci beaucoup.
Bonne journée.